notre série sur la première épître à Timothée intitulée « Combat, le bon combat ». Et c'est une série qui a fait transpirer les prédicateurs qui sont intervenus. Prendre soin des plus faibles, le caractère des responsables, un sujet sensible, la complémentarité homme-femme, où on peut avoir des avis tranchés sur le sujet. Et ce matin, un sujet qui est souvent perçu comme tabou dans nos églises, la question de l'argent. Et ce matin encore, Paul ne nous facilite pas la tâche, surtout si on considère que nous sommes au XXe siècle, dans une société bien plus matérialiste que la sienne. Il y a à nouveau des propos bien choisis qui ne peuvent pas nous laisser indifférents. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Ouh là là. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation qui mène à la ruine et à la perdition. Ouh là là. Préparez-vous à l'écoute de la parole de Dieu ce matin. Sans mauvais jeu de mots, vous risquez d'en avoir pour votre argent. Je vous invite à prendre 1 Timothée 6, on va lire les versets 3 à 21, avec cette exhortation du bon combat, du contentement. La dernière facette des bons combats qu'on aura exploré tout au long de cette première épître, avec toujours comme objectif de repérer le combat véritable de l'Évangile et éviter le combat secondaire, celui qui nous enverrait sur une voie de controverse stérile. Et on va voir comment essayer de vivre ça par rapport à cette question donc de l'argent. 1 Timothée, chapitre 6, les versets 3 à 21, et nous lisons dans la version du Semeur. Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la piété, c'est un homme enflé d'orgueil, un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur des mots. Qu'est-ce qui en résulte ? Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques, des soupçons malveillants, des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses. Recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Je t'adjure solennellement, devant Dieu, source de toute vie et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage devant Ponce Pilate par une belle profession de foi, observe ce commandement de façon pure et irréprochable jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que suscitera au moment fixé celui qui est le bienheureux, l'unique souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui seul est immortel, sa demeure est bâtie au sein de la lumière inaccessible à tous. Nul parmi les humains ne l'a vu de ses yeux, aucun ne peut le voir, à lui soit à jamais l'honneur et la puissance. Amen. Mais ça continue. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en bonheur, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital, placé en lieu sûr, afin d'obtenir la vraie vie. Ô Timothée, garde intact ce qui t'a été confié. Évite les discours creux et les arguments de ce que l'on appelle à tort la connaissance, car ils sont contraires à la foi. Pour s'y être attaché, plusieurs se sont égarés très loin de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu ce matin. La question des biens matériels refait surface assez régulièrement dans nos prédications. Et c'est somme toute assez logique pour une église qui a décidé de prendre les textes bibliques dans ce qu'on appelle des prédications suivies, parce que c'est un sujet qui revient régulièrement dans la parole de Dieu. Des commentateurs ont noté en particulier que Jésus-Christ, notre Seigneur, enseigne en profondeur notre rapport à l'argent. 15% des paroles prononcées de Jésus concernent notre rapport avec les biens matériels, plus que ce qu'il dit du ciel et de l'enfer. C'est interpellant. Probablement parce que la gestion de nos biens en dit long sur notre foi, notre relation avec lui, notre perspective de la vie à venir. Mais ce domaine, comme tous ceux que nous avons vus depuis le début de 1 Timothée, eh bien, lui aussi peut être miné. Il s'agit de ne pas se tromper de combat, de combattre là aussi le bon combat. Et on pourrait prendre ce verset qu'on a entendu tout à l'heure. Le problème, ça n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. Et ce passage nous aide à bien repérer quel enjeu de l'évangile se cache derrière la question de l'argent. Ce sera notre première partie. Comment l'évangile nous sauve de l'amour de l'argent. Et dans un deuxième temps, nous verrons, à partir de ce texte, trois principes pour nourrir le bon combat du contentement et de la générosité. Mais on commence tout de suite avec comment l'évangile nous sauve de l'amour de l'argent. Et donc on a déjà fait écho à ce verset, le verset 10. L'amour de l'argent est racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais de qui Paul parle-t-il ici? Qui sont ces personnes tentées par l'amour de l'argent? Je ne sais pas si vous l'avez perçu à la lecture. En fait, au début de notre passage, au verset 3, Paul est revenu à la dénonciation de faux enseignants qui perturbaient l'église d'Éphèse. Et c'est une préoccupation de Paul tout au long de ses recommandations à Timothée. Et c'est intéressant, il nous donne au passage 4 clés pour démasquer ce qu'est un faux enseignant, démasquer un faux enseignement. Vous avez ça dans les premiers versets de notre passage. Première clé, est-ce que cette personne, cet enseignement, s'écarte des saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que cet enseignant appuie son enseignement sur la parole de Dieu ou sur ses propres analyses? Est-ce qu'il cite la Bible? C'est un premier critère, une première clé. Mais j'espère que vous l'aurez remarqué, même quelqu'un qui cite la Bible, cela ne suffit pas pour conclure que son enseignement est vrai. Les réseaux sociaux sont remplis de personnes qui citent la Bible, mais qui disent tout et son contraire. Ça ne suffit pas comme critère. Alors, il y a un deuxième critère dans ce texte. Est-ce que cet enseignement... Ah, pardon, ça c'était le premier. Est-ce que cet enseignement est conforme à la piété? Étrange expression. On a réfléchi quelques-uns hier, pour le samedi Théo, à la place de la piété dans notre vie. On était une cinquantaine avec l'église de la Nice, c'était très enrichissant, mais là, la piété était plutôt dans la perspective de notre relation avec Dieu, ce qu'on appelle habituellement la prière, la lecture de la Bible. Mais Paul a une version, une vision de la piété qui est plus large. On l'a vu d'ailleurs dans cet épître, au chapitre 3.
Écoutez comment Paul a défini la piété. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. C'est une vision quand même assez large de ce qu'est la piété dans les propos de Paul, et c'est quelque part synonyme de l'Évangile. Deuxième clé donc qu'on peut se garder pour savoir est-ce qu'un enseignement est conforme, est-ce que c'est un faux enseignement ou pas, c'est est-ce que cet enseignement est conforme à l'Évangile. Pas un enseignement qui cherche notre bien-être, qui cherche notre succès, mais qui cherche à glorifier Jésus. Troisième clé qui nous aide à discerner ce qu'est un faux enseignant. Un faux enseignant a perdu le combat du caractère. Ça, c'était un autre message qu'on a entendu pendant cette série. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Alors, il faut peut-être mettre quelques petits guillemets. Il ne faudrait peut-être pas se leurrer. Tout enseignant a probablement un problème de démangeaison avec l'orgueil. Mais là, ce qui est dénoncé, ce n'est plus une démangeaison. C'est un œdème. Un œdème géant. Il est gonflé d'orgueil. Il a tendance à brasser du vent. Il est générateur de divisions, de disputes. Un prédicateur de l'Évangile devrait être le premier bénéficiaire de son enseignement. Sa vie devrait porter des fruits. On devrait voir une progression. Je dis ça avec crainte et tremblement. Dernière clé qui va nous amener à notre sujet. Il utilise son statut d'enseignant, son influence, pour s'enrichir. Alors en France, dans notre sensibilité théologique, je ne vous cache pas qu'il n'y a pas grand risque. Celui qui pense faire fortune en devenant prédicateur, il y a probablement quelque chose qui lui a échappé sur Parcoursup. Mais il est des cultures évangéliques où ça marche. Ça ressemble plus à un gourou qu'à un pasteur. Mais c'est intéressant de noter que c'est une des clés que Paul utilise pour caractériser un faux enseignant. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'intéresse plus à l'argent qu'à la transformation de l'Évangile ? Donc, quatre clés de ce passage qui nous amène à voir comment Paul est passé des faux enseignants à la question de notre rapport à l'argent. Et vous devriez vous dire « Ah, bah, c'est cool alors !» En fait, ceux qui sont concernés, c'est ceux qui sont là, devant, les prédicateurs. C'est eux qui devraient faire attention à leurs problèmes à l'argent. Ce sont les enseignants qui sont sur le grill dans ce texte. Quand je vous disais que 1 Timothée fait transpirer les prédicateurs. Et puis, tiens, puisqu'on y est, allons un pas plus loin. Est-ce qu'on ne tient pas là la justification d'un vœu de pauvreté pour ceux qui s'engagent dans le ministère? Ben oui! Ça va régler le problème. Un homme de Dieu devrait avoir un salaire modeste. Ça va le maintenir dans une saine motivation du ministère. Bon, en France, ça s'inscrit dans la tradition catholique, mais c'est vrai qu'il y a un vrai sujet. Le rapport entre l'argent et le ministère. D'ailleurs, certains ne manquent pas d'humour pour essayer de faire bouger les lignes. « J'ai fait vœu de pauvreté pour m'embêter, donnez-moi des sous. » Pas mal. Bon, au-delà de la blague, vous devrez surtout voir un gros warning s'allumer. Warning qu'on a aussi déjà rencontré tout au long de cet épître. Il ne suffit pas d'être pauvre pour être guéri du problème de l'amour de l'argent. Car nous l'avons dit, le problème, ça n'est pas l'argent, c'est nous. Et pas besoin de gagner des mille et des cents pour que l'amour de l'argent soit un danger pour le ministère. Et d'ailleurs, pour bien s'assurer que ce n'est pas en faisant vœu de pauvreté que l'Évangile sauve ceux qui sont dans le ministère, il suffit de remonter quelques versets plus loin, qui était normalement l'objet de la prédication de dimanche dernier. Alors, je ne sais pas ce qu'il en était dit, puisque je n'étais pas là, mais je me permets de vous le remettre devant les yeux. Les responsables qui dirigent bien l'Église méritent des honoraires doubles, notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Bon, là, le pasteur est sur un terrain glissant. Il n'y a pas de méta-message ce matin. On veut juste se mettre ensemble devant la parole de Dieu et essayer de comprendre ce qu'elle nous dit. Mais force est de constater que Paul ne voit pas du tout de problème à ce que l'Église prenne soin des enseignants de la parole en les rétribuant généreusement. Ce n'est pas la solution de l'Évangile dans 1 Timothée. Et d'ailleurs, pour que les pasteurs ne soient pas trop insatisfaits financièrement, après 1 Timothée 5, il y a 1 Timothée 6. Vous pourrez toujours renvoyer en boomerang 1 Timothée 6 à un pasteur insatisfait de son salaire. La véritable foi en Dieu est en effet source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Hein ? Bon, on va essayer de un peu rééquilibrer tout ça. Et c'est ça, me semble-t-il, le point auquel on voudrait arriver ce matin. C'est cet incroyable équilibre opéré par l'Évangile. Il ne s'agit pas de nous. On ne peut pas faire abstraction de la situation matérielle. Et d'ailleurs, Paul le précise au verset 8, « Tant que nous avons la nourriture et le vêtement. » Et probablement, pour un pasteur, quelqu'un qui est dans le ministère, qui a une famille, on pourrait ajouter le logement. Mais revenons à notre question de départ. Avec tout ce que nous lisons ce matin, alors comment l'Évangile nous sauve-t-il de l'amour de l'argent ? Et il me semble que la première manière qu'on a repérée, là, dans toutes ces petites choses qu'on a essayé de mettre ensemble devant nous, eh bien, c'est par la bienveillance entre nous, la bienveillance de ceux qui sont autour de nous. Voir que d'autres ont le souci d'une situation matérielle qui est plus précaire, permet à cet amour de gagner le cœur de ceux qui ont moins, et donc de faire grimper leur réservoir de satisfaction. Alors bien sûr, peut-être que la première idée qui nous vient, c'est celle du ministère. Et oui, il y a cette idée de donnant-donnant entre ceux qui sont au bénéfice d'un ministère et le soutien de celui qui est dans le ministère. Mais il semble que le principe est bien plus large que juste ce qu'on pourrait penser au niveau du ministère. Le principe qu'on discerne à travers 1 Timothée, c'est qu'en prenant soin matériellement des uns des autres, nous devenons moins sensibles à l'insatisfaction matérielle. Bien sûr, parce qu'il y a des ressources financières pour la combler, mais aussi parce qu'on voit d'autres se soucier, témoigner de l'amour, avoir une préoccupation pour ce qu'on vit. Et il semble que ça va, du coup, marcher dans les deux sens. D'un côté, ceux qui ont moins peuvent voir ce moins comme l'occasion d'expérimenter la préoccupation des autres pour leur situation. Et d'un autre côté, ceux qui ont plus peuvent voir ce plus comme l'occasion de manifester leur générosité et leur amour. Et on y reviendra tout à l'heure. Dieu utilise donc nos liens de solidarité pour nous guérir de l'amour de l'argent. Mais pour que cela marche, il faut associer un second aspect. Parce que l'homme étant ce qu'il est, les rééquilibrages des richesses ne sera jamais satisfaisant à ses yeux. Et c'est le deuxième aspect, me semble-t-il, de ce passage qui nous aide à guérir de l'amour de l'argent. Justement, dans notre vision, dans notre chemin, être content avec ce que Dieu nous donne, ce que l'on a, nous mettre à l'école du contentement. Le contentement. Je crois qu'on tient là un des secrets du vrai bonheur. Le contentement nourrit notre reconnaissance. Au lieu de nous apitoyer sur notre situation, il nous fait tourner les yeux vers le ciel. Il nous invite à assumer que Dieu connaît parfaitement notre situation et qu'il voulait, d'une certaine manière, qu'on passe par là. Il nous invite à confesser que même dans cette situation qu'on n'aurait pas choisie, il reste digne de confiance. Il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et là, vous voyez que ça dépasse la question matérielle. Et le contentement nous libère des esclavages de notre monde. Il y a tout un tas de choses qui nous promet le bonheur ici-bas, mais qui est totalement incapable de nous le donner. Le contentement me permet d'aller au cœur de ma foi. Il m'apprend, au-delà des élans du cœur, du dimanche matin, à vivre concrètement l'affirmation que Christ seul me suffit. Voilà donc comment l'Évangile nous libère de l'amour de l'argent. Il nous amène d'un côté à être généreux les uns avec les autres, comme le Christ a été généreux avec nous, ce qui conduit notamment à se bénir matériellement les uns les autres. Les biens matériels sont une occasion d'expérimenter notre bienveillance réciproque, d'affirmer notre amour. De l'autre côté, il nous amène à nous réjouir de notre situation, en n'ayant que la conviction que ce que nous vivons est le meilleur pour nous, que nous pouvons être heureux ici et maintenant, dans ce que Dieu nous donne de vivre, et dans ce que Dieu ne nous donne pas, car c'est notre relation à Dieu qui devient alors notre véritable richesse. La puissance de l'Évangile, un combat permanent, un combat ô combien nécessaire, utile et libérateur. Un combat pour lequel nous devons persévérer, nous équiper et y revenir en permanence, car quand on croit que c'est gagné, c'est là que nous sommes en danger. Et je vous propose, à partir du passage de ce matin, d'examiner trois principes, justement, pour nourrir notre détermination à mener le bon combat du contentement et de la générosité. Trois principes pour nourrir le bon combat du contentement et de la générosité dans ce texte d'1 Timothée 6. Premier principe, ne nous fions pas aux richesses. Elle ne nous donne aucune garantie, contrairement à ce que nos yeux voudraient nous faire croire. La première stratégie, dénoncer justement les stratagèmes de l'adversaire. Les richesses ne nous donnent aucune garantie. Pourtant, nous vivons dans un monde où les moyens de gagner de l'argent facilement se multiplient. Vous pouvez penser aux jeux de hasard, aussi pour parier sur les événements sportifs, l'actualité du monde maintenant. Peut-être vous avez été gagné par l'agitation autour de la crypto-monnaie. Et puis il y a tout ce qu'on promet à nos jeunes, soit un influenceur, et tu gagneras 5000 euros par mois. Tu mets juste une vidéo, les gens la regardent, et c'est bon, tu as fini ton boulot pour le mois. Et a priori, rien d'illégal là-dedans. Qu'est-ce que le pasteur peut bien avoir à dire là-dessus ? Un danger nous guette, bien plus insidieux me semble-t-il. Il me semble que plus nous gagnons de l'argent avec un effort moindre, plus nous allons fausser notre regard sur les richesses. Ce n'est pas une question d'égalité, c'est une question de mensonge. Et Paul nous invite à appliquer deux filtres pour sonder la solidité de ce en quoi nous mettons notre confiance. Et les richesses n'arrivent pas à passer ces deux filtres. Rappelez-vous, Paul louait les vertus de la piété parce qu'elles avaient les promesses de la vie présente et de la vie à venir. Et en quelque sorte, il va faire la même chose avec les richesses. Ah bon ? Et les richesses, elles promettent quoi pour l'avenir ? Elles promettent quoi pour le présent ? Pour l'avenir, nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. La grande faiblesse des biens matériels, c'est qu'on ne les emporte pas avec nous. Un ami pasteur, quand il commande ses versets, a l'habitude d'ajouter « Vous ne verrez jamais une remorque derrière un corbillard. » Alors c'est vrai que ça s'inscrit dans le temps long. Mais l'Écriture nous encourage à évaluer les choses dans le temps long. Sur quoi vous misez votre vie ? Et non pas juste pour ce que ça nous rapporte à court terme. Mais même dans le court terme, Paul a envie d'ajouter, en ce qui concerne la vie présente, nous ne devrions nous faire aucune illusion. Le verset 8 est assez clair. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation, tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Alors qu'on penserait que l'argent permettrait de régler un certain nombre de problèmes, il en cause tout un tas. De nouveau, l'argent, quand il y en a, souvent cause de désaccords pour ceux qui doivent le gérer ensemble. Pensez à une église. On a de l'argent, on fait quoi ? On investit dans l'accueil, on investit dans la mission, on investit dans l'implantation. et nos âgés peuvent vite dégénérer. Pensez au couple. Ah, l'argent. Première cause de dispute dans le couple. Et puis, quand on a de l'argent, on a peur de le perdre. On a peur de le gaspiller. On a peur tout d'un coup de devoir revenir en arrière. Vous savez, à l'époque où on était jeune, où on savait vivre sans argent. Avoir, c'est aussi devoir se préoccuper de ce que l'on a. Le contentement est un garde-fou puissant pour ne pas tomber dans le piège des richesses. Il nous apprend à être heureux avec ce que l'on a et à louer Dieu pour les préoccupations que nous n'avons pas, parce que justement, nous n'avons pas tous ces biens en plus. Le contentement me garde de vouloir gagner l'argent facilement, en me rappelant la spirale toxique. Le contentement permet de reconnaître que les choses essentielles à la vie ne s'achètent pas, et que les choses moins essentielles qui s'achètent finissent bien souvent par nous voler notre joie, notre liberté. J'ai relu avec bonheur la savoureuse fable de La Fontaine cette semaine, du savetier et du financier. Peut-être l'avez-vous appris à l'école. Un financier fatigué par l'échange joyeux chaque matin de son voisin, un savetier aux revenus modestes, lui propose un jour de lui donner une belle petite somme d'argent. Le savetier l'accepte au début, il n'en croit pas ses yeux. Il a tout l'or du monde, tout ce qu'il a toujours peut-être rêvé. Mais au bout d'un temps, il revient avec cet argent en accusant le financier de lui avoir volé sa joie et ses chants. Penser que l'enrichissement est la solution à nos problèmes, c'est faire fausse route, nous dit la parole de Dieu. Deuxième principe, investissons dans les capitaux célestes. La parole de Dieu est magnifique. C'est le verset 19 qui nous met ça en avant. Il y a la place pour la richesse dans le royaume de Dieu. Paul semble changer son fusil d'épaule. Il est possible d'être riche et de ne pas succomber à l'amour de l'argent. Pourtant, on pourrait dire qu'il est là aussi question de contentement. On l'a entendu tout à l'heure dans ce qu'on a lu dans la première partie, dans la bouche de l'apôtre Paul aux Philippiens. Le contentement, c'est aussi bien dans la disette que dans l'abondance. Si vous êtes riche, eh bien, il faudra vous en contenter, semble dire l'apôtre Paul. Et après avoir encouragé les riches à ne pas tirer orgueil de leur argent, Paul sort sa botte secrète pour vivre le contentement dans l'abondance. Si nous ne pouvons rien emporter dans ce que nous gagnons ici-bas, il est par contre possible d'envoyer les richesses avant nous au ciel et d'investir dans un capital bien plus solide que n'importe quelle banque ici-bas. Alors comment investir dans ce fonds de placement ? Eh bien, chaque fois que vous êtes généreux avec quelqu'un, un ami, un voisin, quelqu'un dans le besoin, Dieu nous dit que nous plaçons cet argent dans la banque céleste et que nous en tirerons des intérêts pour l'éternité. Et comme nous ne sommes que gestionnaires des biens de biens que Dieu nous a confiés, bien, il nous faut justement réfléchir à la manière dont Dieu veut que nous utilisions cela pour collaborer avec lui dans l'avancement de son royaume, ici et aujourd'hui. Alors voici quelques pistes pour gérer le contentement quand le solde est positif, quand il n'y a plus ce qu'il ne faut. On les avait déjà médités il y a quelques temps, je les rappelle juste rapidement. Être intentionnel dans notre générosité, cela va contribuer à nous garder de l'amour de l'argent. Se fixer un budget de dépenses qui ne dépend pas uniquement de ce que nous gagnons, mais de ce qui nous paraît juste de dépenser. Nous serons ainsi confortés à définir ce qui est nécessaire et ce qui l'est moins. Ce petit exercice nous aidera à progresser dans le contentement. Parce qu'il y a tout un tas de choses dont on a l'impression qu'on ne peut pas se passer, mais dont il peut s'avérer particulièrement libérateur si nous faisons le pas de foi d'essayer. Autre principe, donner avec joie. On l'a vu tout à l'heure, Dieu a prévu ce principe, ou certains en plus que d'autres, pour exercer notre amour les uns pour les autres. C'est donc en vue de notre joie qu'il y a cette différence entre nous, afin qu'on puisse expérimenter la joie de la générosité, de voir ce que Dieu fait avec notre don. C'est ce qui va nous rendre encore plus passionnés pour l'œuvre de Dieu autour de nous et en nous. Deuxième principe donc, investissons dans les capitaux célestes. Troisième principe, préoccupons-nous avant tout de ce qui préoccupe Dieu. C'est la dernière recommandation que je vous propose ce matin, et c'est aussi une conclusion qu'on pourrait donner à toute la série de 1 Timothée. Combattre le bon combat. Préoccupons-nous de ce qui préoccupe notre Dieu. Si nous ne voulons pas nous perdre dans un combat secondaire, eh bien le meilleur remède consiste encore à prendre place dans le véritable combat, celui que Dieu veut nous confier dans ce monde. Alors bien sûr, vous l'avez compris, en s'adressant à Timothée, Paul s'adresse à un pasteur dont la mission est d'enseigner les vérités de l'Évangile. Mais ses recommandations s'appliquent en définitive à tous. L'attachement à Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. Nous sommes appelés à vivre comme des contre-modèles de ce que ce monde nous appelle à suivre. Et c'est en recherchant, comme on l'a entendu tout à l'heure, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, que nous découvrirons la véritable richesse. Cette recherche se fait par des voies différentes, en fonction de nos situations de vie, et notamment de nos situations matérielles. Mais cette recherche nous promet un trésor inaltérable, un trésor sur lequel nous pouvons nous confier, qui est en Jésus-Christ, donné à tous. Alors ne passons pas à côté. Investissons intentionnellement dans ce que Jésus nous a donné gratuitement pour que nous puissions vivre pleinement satisfaits en attendant son retour. Amen. Je vous invite à prendre un chant pour faire suite à ce message.